Bonjour, ici Célia Héron, hôte et coproductrice du podcast Brise-Glace. Avant de vous laisser plonger dans notre toute nouvelle série audio, il n'y a qu'à m'expliquer, un mot pour vous signaler que les podcasts du temps se développent. Découvrez Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique, et bien d'autres encore sur la page letemps.ch/podcast. Et j'en profite pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement web et print sur la page letemps.ch/abonnement au pluriel. Bonne écoute!
Le groupe Mutuel s'intéresse aux sujets d'actualité qui touchent la population suisse. En collaboration avec Le Temps, nous vous souhaitons une bonne écoute et un beau moment de découverte.
Rien que le mot ménopause, c'est comme si on ferme une porte. C'est comme si la jeunesse s'en va. J'ai appris à ne pas trop me fixer sur le regard des autres. Ça, c'est un sacré apprentissage. Puisqu'on vit quand même dans une société d'images de jeunesse, tout ce qui dépasse les marges est forcément à jeter.
Bienvenue dans la saison 2 de Brise-Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Qu'est-ce qu'être une femme de 65 ans dans une société qui rappelle à tous les coins de rue l'importance cruciale des soins anti-âge ? En quoi est-ce que ce jeunisme ambiant pèse sur nous tous ? Et pourquoi la ménopause est-elle encore si taboue ? On a demandé à Laura, poétesse sexagénaire, de nous parler du temps qui passe, du regard sur soi et de celui des autres, quand on est une femme qui vieillit.
Je suis dans la poésie, donc poète, depuis quasi toujours, enfin en tout cas depuis l'adolescence. C'est un peu ma passion, c'est ce qui me fait vivre. Je vis dans une ville, petite ville, de chez nous, Suisse romande.
Quand vous étiez enfant, puis adolescente, quel était le rapport que vous entreteniez avec votre corps ?
Alors, je pense que j'étais plutôt un garçon manqué. J'avais un frère et j'aimais beaucoup les jeux de garçons, les jeux d'indiens, grimper aux arbres. Ça ne plaisait pas du tout à ma mère, qui aurait voulu effectivement que je sois la petite fille modèle. Et donc, je pense que le rapport au corps, eh bien, il était très contenu par l'éducation que j'avais, mais c'était pas quelque chose qui me plaisait. Alors, je faisais tout pour échapper à ces contraintes. Je pense que depuis toute petite, j'ai souhaité, au fond, vivre à ma façon. Mais j'étais dans un milieu qui permettait pas vraiment de le faire, ce qui fait qu'il fallait presque avoir deux identités. Une qui était la mienne avec mes jeux et une autre qui était pour la façade dans un milieu où il y avait beaucoup de conventions, milieu bourgeois, et il fallait être bien habillée toujours et puis sourire. Je me souviens que ma mère me demandait de sourire aux gens et comme je n'avais pas toujours envie de le faire, alors c'était soit j'obéissais, soit je ne le faisais pas, tout simplement. Je ne sais pas trop ce que mon frère a eu comme injonction, mais elle ne devait certainement pas être les mêmes. J'avais des habits que je détestais, on me coiffait, donc je devais en fait obéir à certains préceptes maternels. Et je ne pense pas que j'étais très séduisante. Quand je me souviens de mes copines de classe qui avaient une belle poitrine, qui étaient bien habillées déjà depuis l'âge de 12-13 ans, moi, je pense que je faisais figure de petit fantôme gentil. Je devais avoir des pantalons rayés et des jupes plissées. Alors, pour une jeune de 12 ans, c'était pas très sexy. Enfin, de toute façon, on n'utilisait pas ce mot. Les coiffures, alors, je devais toujours passer par des coiffeuses. Et on me faisait des permanentes. Moi qui ai des cheveux très raides. On faisait des permanentes et on mettait des pinces dans les cheveux. Donc, il n'y avait rien qui collait avec ce que je pouvais, moi, espérer. Alors, j'ai mis du temps à m'émanciper par rapport à ça, mais je sais que j'étais absolument ridicule. Je me considérais comme ridicule.
Comment est-ce que vous avez pris conscience d'un pouvoir de séduction ?
Tout le monde a envie de plaire, tout le monde a envie de séduire et d'être aimé. Donc, sans doute que ça se faisait complètement à mon insu, mais jusque tard, c'était pas avec les personnes qui pouvaient répondre. Je pense que moi, j'étais amoureuse depuis le berceau, j'ai l'impression. J'ai toujours ressenti beaucoup, beaucoup de désir pour les hommes, les gars. C'était quelque chose que je pouvais très très peu extérioriser, mais qui était très fort chez moi.
À quel moment est-ce que vous avez pris conscience de l'âge qui arrive et qui peut-être transforme le corps, notamment des femmes?
Bon, j'ai eu des enfants entre 20 et 30 ans, c'est-à-dire 29 ans jusqu'à 34, j'ai trois enfants. Ben, le corps, là, subit ses premières transformations majeures. Et je me souviens que mon premier cheveu blanc est apparu après la naissance de mon premier enfant. Et donc, je pense que là, il y avait comme une sorte de petit signe, tu passes à un autre stade de l'âge, la féminité. Je le situe parfaitement, le miroir, la salle de bain, le geste que j'ai fait, ah, voilà, il est là. Mais au fond, c'est rien, quoi.
Est-ce que, curiosité, vous vous êtes teint les cheveux? Oui. À cause du cheveu blanc?
Ou mais alors ça, c'était... J'avais à peine 30 ans, le premier cheveu blanc, donc je ne me suis pas teint les cheveux. Ah non, pas au premier, bien après, évidemment. Je pense que après 50 ans, j'ai commencé. Je déteste le gris, donc à moins d'avoir des très beaux cheveux blancs, ce que je ne sais pas encore. Si je pouvais être tout à coup blanche, comme la neige, ça irait. Mais le gris intermédiaire avec des demi-tons, de vilain gris, me faisait pas du tout envie. Donc non, pour l'instant, les cheveux, c'était évident que j'allais les garder dans ma couleur la plus proche de celle de ma jeunesse. Par contre, les rides, c'est une autre manifestation qui apparaît dans le corps. Et j'en ai eu presque avant 20 ans, je pense, parce que mon visage a toujours marqué beaucoup les expressions. Donc je pense que les rides, maintenant, elles se sont installées, puisque j'ai 65 ans. Les rides, c'est quelque chose qui ne me faisait pas forcément plaisir, mais ça marque les expressions, je trouve. Je me souviens d'un stupide proverbe. Je ne pense pas que c'est ma mère qui me l'a dit, mais « Souriez, mesdemoiselles, pour que plus tard vos rides soient bien placées. » Voilà, ça c'est des injonctions, peut-être que entre le 19e siècle et après, on faisait aux jeunes filles. Mais moi, ça me faisait plutôt rire qu'autre chose, parce que justement, j'avais l'impression que les petites rides que j'ai au coin des yeux, tout ça, ça faisait partie du pétillement de la vie et du corps. Elles sont là comme des empreintes du temps. Et alors, avec le temps, j'ai appris à les aimer, mais pas toujours. C'est un petit peu les doubles dimensions des choses, finalement. J'ai l'impression qu'on aime, puis après, un jour après, on n'aime pas. C'est comme l'aspect de soi dans le miroir qui, parfois, est insupportable, puis d'autres fois, tiens, je suis bien aujourd'hui. Autant en 30 et 40 ans, même après, on est dans la belle maturité, dans son épanouissement, en fait. C'est marrant parce qu'il y a des dizaines, hein, quand même. 40 ans, pour moi, c'était la toute-puissance. J'avais l'impression de pouvoir tout gouverner. Mes enfants étaient là, il y avait beaucoup de choses que je maîtrisais. Et j'ai vécu ces 40 ans un peu vraiment dans ce sentiment de maîtrise. Après, il y a eu 50. À 50 ans, c'était... encore le sentiment de l'éternelle jeunesse, qui passe pas par le corps, qui passe par tout ce qu'on a en soi. Le pouvoir d'imagination, la vitalité, le bonheur de nager, de faire du ski à toute vitesse. Et puis à 60 ans, là, un peu moins le grand bonheur d'avancer en âge, mais avec une tonne de projets en cours qui maintiennent la vitalité, en fait. À partir de 60 ans, je pense que j'ai commencé à avoir des raideurs en me levant le matin. Puis ça, c'est pas très agréable. Pour marcher, j'ai l'impression que tout est engourdi. C'est comme quand on a une forte grippe et puis qu'on a mal partout un peu. Alors les articulations, il faut les remobiliser. Il faut se dire que ça va aller. Puis après quelques minutes, c'est bon.
Quand vous êtes passée par la ménopause, comment est-ce que vous avez vécu cette phase?
C'était quelque chose qui était dans mes préoccupations. Je ne savais pas à quel âge ça allait arriver. Ma mère l'a eu tard, donc moi aussi, finalement, je pense que c'est quelque chose qui est quand même souvent transmis, hein, générationnellement.
Ça veut dire quoi, tard ?
57 ans. Alors j'en avais parlé, oui, avec un gynécologue qui m'avait averti qu'il faudrait que je prenne des hormones parce que, comme moi, j'ai toujours chanté et adoré chanter, dans plusieurs chœurs d'ailleurs, il m'avait averti que ma voix allait baisser. Donc il faudrait que je prenne des hormones pour éviter que ma voix baisse. Et là, je me suis renseignée et puis j'ai décidé de, quand la ménopause arriverait, je ne voulais surtout pas prendre des hormones. Et puis j'ai réussi à trouver quelqu'un d'autre, une femme gynécologue, qui m'a totalement accompagnée dans le processus. Et, au miracle, ma voix n'a pas baissé. Je suis toujours soprano, j'arrive toujours à monter assez haut. J'en ai déduit que les choses qu'on nous dit sous couvert médical ne sont pas toujours exactes.
Quels ont été les tout premiers symptômes alors ?
J'ai eu des fortes règles. Ça devenait presque des hémorragies. Je ne sais pas si c'était personnel à moi. Et après, ça s'est tari, par chance. Je l'ai vécu comme très bienvenue. Après toutes ces années, la fin des règles, c'était une libération. Et puis, alors, il y avait ces fameuses bouffées de chaleur qui interviennent quand on ne les voudrait pas. C'est comme une canicule intérieure. On a tout à coup le sang qui vous monte partout à la figure, on devient rouge, on transpire. Et on se dit, mais voilà, j'ai mon chauffage qui se détraque. Donc oui, c'est assez étrange. Et puis ça revient à un rythme tout à fait impromptu. On ne sait pas quand ça va arriver. Donc c'est des fois gênant. Et moi, je ne suis jamais tombée dans une sorte de trou noir dépressif. Par contre, j'étais irritable. Et ça, c'est vrai que je l'ai été particulièrement au début des manifestations de la ménopause.
Comment ça se manifestait ?
Mais tout, des nerfs, une sorte d'envie de ruer comme un cheval, de dire que les autres sont des cons, enfin, faire les tâches ménagères, c'est absurde. Encore les courses, enfin, c'est une sorte de succession de choses qui, ouais, tout est agaçant. C'est pas amusant d'être dans cet état. On fait subir ça à son conjoint, à ses enfants. C'était encore à la maison, je pense, à cet âge-là. Et puis, en même temps, ça s'en va. Ça s'est nettement calmé. Depuis peut-être 5 ans, j'apprécie de faire des choses que je détestais avant. J'ai toujours beaucoup aimé faire à manger, ça reste un plaisir. Mais même des gestes de faire de l'ordre ou du ménage, c'est devenu beaucoup plus agréable. Je pense que là, c'est une forme de sagesse qui vient avec le temps. Parce que donc ça, c'est aussi quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est que je pense qu'avec les années, si on n'est pas trop aigri par la vie, j'espère que je ne suis pas, je pense qu'il y a des choses qu'on apprécie avec le temps. Et toutes ces couches d'années qui se sont accumulées en soi, c'est un potentiel fabuleux. C'est vraiment quelque chose que je ressens comme très bénéfique. Maintenant, on a donc 2 petits-enfants. Alors, c'est un peu un cliché de dire que on est en extase devant. Quand on devient grand-parent et qu'on a le bonheur d'avoir des petits-enfants, c'est un cliché, mais il est vrai, la réalité de pouvoir emmener une petite fille dans le jardin, de regarder les fleurs, et puis de lui transmettre un éveil par rapport à des sensations. Je suis presque plus attentive à certaines choses de l'environnement général que quand j'étais maman. Parce que là, on est investi de rôle et de corvée, entre guillemets. Enfin, il faut faire aller la machine. Hein. Là, quand on a 3 petits, on ne s'extasie pas toujours sur le chant des oiseaux le matin. Et maintenant, c'est possible, quoi.
On a aussi cette idée que les femmes ménopausées n'ont plus de vie sexuelle ou ont moins de désir sexuel. Qu'est-ce que vous en diriez ?
Il y a eu des phases, effectivement, au début de la ménopause où j'étais privée de ce désir physique, c'était clair. Et puis, il y a des transformations des organes qui font qu'on n'est pas très bien, pas très à l'aise, une sécheresse qui est pénible. Et puis bon, après, quand ça s'est installé, je pense qu'il y a un nouvel équilibre qui se crée et qui fait que le désir et les organes sont de nouveau accueillants. J'ai pas eu beaucoup d'occasion de réfléchir à ça, mais je pense que oui, il y a effectivement un plaisir sexuel qui est toujours là.
À l'époque de la ménopause, vos filles avaient donc 20 ans. Est-ce que vous vous souvenez avoir ressenti une forme peut-être inconsciente d'envie de leur jeunesse ou de leur féminité à elles ?
Bon, dans la mesure où j'ai pu donner la vie, je me sentais pas du tout frustrée par rapport à leur jeunesse. Et puis, là, c'est de l'émotion qui vient, mais on a une relation tellement belle avec nos filles que elles m'ont toujours valorisée d'une manière, émouvante, quoi. Autant moi je leur disais qu'elles étaient belles, elles me le disaient aussi. Donc j'avais pas l'impression de devenir une ancêtre. Donc j'étais heureuse de leur épanouissement, mais j'avais pas l'impression de subir l'âge, je crois. Sans doute qu'il y a dû y avoir des pics à l'intérieur de moi qui me disaient « t'es plus comme ça, ton corps a changé, bien sûr ». Mais j'ai pas ressenti d'envie par rapport à elle, d'envie de redescendre 20 ans plus tôt, je crois.
Pourquoi est-ce que vous pensez que la ménopause, c'est un sujet encore relativement tabou dans notre société ?
Je pense que ça renvoie à des choses comme vieille peau, ou fleurs fanées, flétries, toute une gamme d'images qui sont très désagréables et rien que le mot ménopause. Vous connaissez la fleur de la ménopause, le cyclamène. Bon, c'est juste un jeu de mots. Donc c'est comme si on ferme une porte. C'est comme si la jeunesse s'en va. Puisqu'on vit quand même dans une société d'images de jeunesse, tout ce qui dépasse les marges est forcément à jeter. Moi je pense que c'est quelque chose qui va avec cette standardisation des normes et qui est désagréable et plus que ça, qu'il faut changer, à mon avis. Après, on va dans la valorisation de la vieillesse. Hein. La vieillesse n'existe plus, tout le monde est encore jeune. À 80 ans, on fait encore du ski, du fitness, de la course à pied, du jogging. Il y a 1000 activités proposées par, entre autres, Prosenectute, par exemple. Ça aussi, c'est une forme d'aliénation. Pourquoi est-ce que la femme n'aurait pas le droit de se reposer, de se laisser vivre dans son temps ? Elle a donné tellement. Pourquoi elle ne pourrait pas rester tranquille un peu ? Dans les deux sens, il y a des exagérations de clichés et de normes qu'il faut, à mon avis, combattre.
Qu'est-ce que ça vous évoque, le mot « vieille » ? Qu'on a de la peine à employer d'ailleurs, hein, qu'on n'ose pas employer comme si c'était d'office péjoratif, quoi.
Ouais. Moi je vois une petite vieille courbée, avec une canne, le dos déformé, vieille. C'est une image que je pense ne pas avoir encore, mais je sais que je pourrais arriver à cet âge. Puis je vois le poème de Ronsard, « Quand tu seras bien vieille le soir, la chandelle ». N'attendez à demain, vivez dès aujourd'hui, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Bon, ça, c'est la fin du poème, mais bien vieille, le soir à la chandelle, je vois un monde de chute presque, la chute de la vie.
Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez pris conscience du fait que le regard sur vous avait changé, ou soudainement vous vous êtes dit, en fait, les gens ne me regardent plus de la même façon ?
Je me souviens pas trop, hein. Je pense pas que ça a été le moment choc dont on peut se souvenir, mais maintenant je m'amuse de ça parce que je vois que je suis invisible pour certains. Et moi, ça me fait rire. Parce que je me dis, bah, tu ne me vois pas, mais moi j'existe, moi je te vois. Donc, s'il n'y a pas la réciprocité, peu importe, mais c'est clair, c'est évident, surtout maintenant, hein, à 65 ans, je suis invisible.
Ouais. Est-ce que vous vous souvenez d'une circonstance précise où vous êtes vraiment face à cette réflexion? Un lieu, un
moment? Oui, oui, il n'y a pas longtemps. J'ai croisé quelqu'un qui regardait, je pense, quelqu'un de plus jeune, probablement. Et là, je me suis dit, ben, c'est évident, pourquoi il me regarderait? C'est aussi assez fou, dans l'échange de regards dans la rue, par exemple, j'ai remarqué ça avec le temps, en une fraction de seconde, on identifie l'âge des gens qu'on croise. Quelqu'un qui aura 25 ans, tac, je vois à son aspect quel âge il a. Une personne de, disons, 70 aussi. On est avec des antennes liées. J'ai appris à ne pas trop me fixer sur le regard des autres. Ça, c'est un sacré apprentissage. Parce que dans la société où on est, tout est basé sur l'apparence, sur le regard que les gens portent sur la femme, sur sa jeunesse, alors éblouissante, il ne faut pas avoir justement un pli sur le visage. Donc on est soumis au regard des autres. Et moi, comme vous savez, j'ai vécu mes 68, j'avais 15 ans, et j'ai vécu tout le mouvement hippie avec une dose d'anticonformisme absolu que j'essayais d'installer dans ma vie. Donc en fait, je pense que ça, c'est une base que j'ai eue depuis ces années 70, disons. Ce qui fait que feuilleter des magazines de mode, voir un peu ce qu'on fait des femmes, ça m'a toujours horripilée. Je n'aime pas voir la femme réduite à sa peau extérieure, puisqu'il y a tout l'intérieur qui compte, et on a l'impression que cette surface devrait résumer la femme. Or, vraiment non, elle ne la résume pas. Et donc, j'ai bien vu que le regard des hommes se déplaçait non plus vers moi, mais vers mes filles. Et je pense que c'est induit par un certain nombre de choses de la société. Et puis, ben voilà, j'en ai pris mon parti. Hein. J'ai des amis, j'ai des gens de mon âge qui m'estiment, donc je ne me suis pas trop attarder à justement ce que j'appelle des regards de surface. Mon compagnon m'a toujours valorisée, donc j'ai une chance merveilleuse, quoi. Je pense que ça, c'est pour moi un vis-à-vis qui m'a toujours été totalement bienfaisant. J'ai une chance de fou, je pense, de folle. Oui, on parle de nos mondes intérieurs, nos mondes amoureux, et donc c'est quelque chose avec lui que je peux évoquer. Aussi dans cette confiance incroyable qui existe entre lui et moi, il y a toujours eu de sa part, mais si tu plais encore, mais ça me fait du bien, ça me fait plaisir, ça veut dire que tu es vivante. Et je connais peu d'hommes qui ont ce discours, je trouve ça absolument inouï.
Est-ce que vous avez le sentiment que les femmes de plus de 50 ans sont invisibles dans la société dans laquelle on vit?
Le besoin de montrer des femmes jeunes et des nouvelles femmes, je pense qu'il sera toujours présent. J'ai une amie qui a passé 50 ans, qui fait du théâtre. Et elle me dit, on choisit maintenant toujours des jeunes. Et moi, je suis plus dans le coup. Elle le déplore. Alors, comme dans le monde de la poésie, non, on a de la chance. On est moins axé, je pense, sur l'apparence. Donc là, je pense que voilà, j'ai bien de la chance de ne pas être trop tenue à justement ces fameux clichés de mode et de préférence des jeunes. Moi, je regarde beaucoup quand même la publicité. Hein. J'aime bien voir ce qui apparaît dans les grandes affiches et tout ça. Et il y en a qui me fâchent. Je ne sais pas si vous avez vu il n'y a pas longtemps « Embrace Yourself ». Je ne sais même déjà pas ce que ça veut dire. Alors, c'est soit un homme, soit une femme en soutien-gorge. Et puis, je crois que c'est lié au fitness. Mais comme par hasard, alors l'homme, il est à torse nu. Il est magnifiquement musclé. Puis la femme, elle a... Qu'est-ce qu'on appelle ça, c'est...
Une brassière.
Oui. Et puis, elle est nue dessous. Embrace yourself. Déjà, tout est en anglais, ça m'énerve. Et puis, on devrait s'identifier à quoi, là? Faire du fitness à mon âge, enfin, moi je fais de la gym, d'accord, mais c'est absurde d'avoir ces images qui flattent sans doute les jeunes, mais moi, ça me fait tartir de voir ça. Les femmes qui vieillissent et qui veulent cacher leur âge, ça, ça m'énerve aussi, parce que je trouve que d'avoir une femme, disons, de un peu plus que moi, hein, 70, qui s'habille comme une gamine, ou qui se met un maquillage à outrance, en espérant rester jeune, c'est aussi décalé que de vouloir réduire les femmes jeunes à des images stéréotypées. On est appelé à changer, on est appelé à avancer en âge. On a une issue qui va vers la fin. Donc, je pense que c'est beau. Moi, quand je vois certains visages de femmes indiennes, très âgées, hein, dans d'autres cultures, de les voir totalement ridées, fripées, pour moi, c'est une image de cette réalité de la vie et des âges de la vie. Je ne sais pas comment je serai dans 10 ans, dans 20 ans, mais si possible que je puisse garder un certain naturel. De toute façon, je ne pense pas que je vais me faire lifter, réviser le portrait, j'en suis pas là, mais je pense que c'est important d'aller avec cette conscience qu'on n'est pas immortel.
À la personne qui peut-être craint le fait de vieillir, qu'est-ce que vous diriez? Quelle a été la bonne surprise et quelle a été la mauvaise surprise dans le fait de vieillir?
Alors, j'aime pas du tout le mot « prendre sa retraite ». Ça, c'est le côté péjoratif. Et puis, comme je suis exactement en plein dedans, dans cet âge, je fais tout pour l'éviter. Je dis que je ne prendrai jamais ma retraite, que j'écrirai jusqu'à ma mort. Mais le mot « prendre sa retraite », parce que pour moi, c'est un repli. C'est le mot « repli, retraite ».
Quelle a été une bonne surprise, disons, dans le fait de vieillir?
Oui. Alors, c'est chaque année, quand je remonte sur des skis, je me dis « oui, je peux encore ». Et je peux encore aller vite. Donc, le corps, il est d'accord. C'est une surprise. Chaque hiver, je peux encore skier, même si je tombe. J'ai fait une chute là il y a quelques jours, c'était sublime quoi. C'est tellement beau et jouissif de skier, donc on peut toujours, je crois. Tant qu'on n'est pas fauché dans sa santé, tant qu'on n'a pas une maladie dégénérative abominable qui vous tombe dessus, je pense que le corps il a des réserves insoupçonnées, incroyables. On peut aller loin avec son corps et je voulais dire que le corps ça a été mon allié de toujours. Vraiment, depuis le début, depuis que j'existe.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise-Glace. Je suis Célia Héron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Adrien Samaki-Yablou. Un grand merci aussi à Groupe Mutuel pour le soutien apporté à cet épisode. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch/podcast ou sur vos applications d'écoute. Et en ce qui me concerne, je vous dis à dans 15 jours.